Frères et sœurs, les amis, j'aimerais que nous puissions nous arrêter une fois de plus sur la première lecture tirée de l'Ancien Testament du premier livre de Samuel. Pourquoi ? Parce que la curiosité qui est la mienne m'a fait me poser intérieurement cette question. Pourquoi, en lisant ce texte déjà plusieurs fois de Samuel, cette première lecture, pourquoi a été choisi dans la liturgie ce texte pour la fête de la Sainte Famille? Car en apparence, il n'y a rien de commun à la fête que l'Église aujourd'hui célèbre de la Sainte Famille avec ce texte. Alors, c'est très intéressant à découvrir, car de fait, il y a quand même un lien, et nous allons tenter rapidement de le découvrir ensemble. Alors, comme toujours, un petit peu de contexte, nous sommes là dans une période de l'histoire d'Israël dont on parle très peu. C'est la fin de la période des juges. Et Samuel, dont il est question aujourd'hui, est un homme charnière entre deux périodes de l'histoire de son peuple. Il a été le dernier des juges, mais un juge bien différent des autres. C'est-à-dire, il n'est pas un chef de guerre, il est d'abord et avant tout un chef religieux. Car après la mort de Moïse, à l'entrée de la terre promise, les tribus, vers 1200 avant Jésus-Christ, les tribus se sont installées dans le pays et il n'y avait pas d'administration centralisée, c'était les juges qui étaient chargés de cette administration et ils étaient à la fois des chefs de guerre, politiques et religieux. Par contre, ce n'est pas du tout le cas de Samuel qui clôt, si on peut s'exprimer ainsi, cette grande lignée de la période des juges. Elle est donc finie avec Samuel et va commencer la royauté. C'est lui qui a consacré Saül comme premier roi d'Israël vers 1030 avant Jésus-Christ. Autre point du contexte, et je m'arrêterai là pour le contexte, nous sommes avant la période de la royauté. Cela veut dire que ni Jérusalem ni son temple n'existent encore et donc l'arche d'alliance qui a suivi le peuple durant l'Exode réside dans un sanctuaire à Silo, au centre de la Palestine. Et ce sanctuaire est gardé par un prêtre, Élie, qui n'a rien à voir avec le prophète Élie, du même nom, qui vivra au IXe siècle. Alors, parce que justement cette ville de Silo abrite l'Arche d'Alliance, elle est devenue un centre de pèlerinage. Alors, nous sommes arrivés à notre histoire. Anne, la mère de Samuel, avait tant pleuré, tant prié surtout pour avoir un enfant. Elle était la femme préférée d'Elkana, son mari, mais elle était stérile et sa rivale, Pénina, ne se privait pas de l'humilier, même en public. Et chaque fois qu'on montait en pèlerinage au sanctuaire de Silo, Pénina se pavanait avec ses enfants. Et donc l'humiliation de la pauvre Anne était à son comble et elle ne cessait de pleurer à un tel point que le prêtre Élie, qui gardait le sanctuaire du Silo, ne pouvait plus la supporter. Et exaspéré, un jour, il a essayé de la repousser en lui disant « Va-t'en ailleurs, cuvée-t-on vin ?» Alors, Dieu connaît le fond des cœurs, il a vu, il a été touché, Dieu a été touché au plus profond de lui-même par les larmes d'Anne, et il a entendu sa prière, ce fameux cantique d'Anne qui ressemble à s'y méprendre au Magnificat de la Vierge Marie. C'est pourquoi Anne a appelé l'enfant Samuel, puisque une des traductions du mot Samuel, c'est Dieu entend, Dieu exauce. Et dans son chagrin, Anne avait fait ce vœu. Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. C'est au premier livre de Samuel, au chapitre 1, verset 11. Alors notre texte aujourd'hui raconte l'accomplissement de ce vœu, tout simplement. Dès que l'enfant était sevré, au bout de 3 ans, elle l'emmène au sanctuaire de Silo et le confie au prêtre Élie, en lui disant « Je suis cette femme qui se tenait ici près de toi, souviens-toi, tu m'avais plus ou moins jeté, mis dehors, et c'est pour obtenir cet enfant que je priais le Seigneur. » Voilà. Alors, nous pouvons conclure en se demandant « pourquoi ce texte nous est proposé à l'occasion de la fête de la Sainte Famille. Quel lien peut-il y avoir entre les deux enfants, Jésus et Samuel, les deux mères Marie et Anne, les deux pères Joseph et Elkana? Plus de 1000 ans les séparent. Eh bien, j'en tirerai quelques remarques, si vous voulez bien. Premièrement, Dieu entend. Dieu est touché, je vous l'ai dit tout à l'heure, au plus profond de son cœur, en entendant, puisque c'est le sens du mot Samuel, Dieu entend, les larmes et la prière de la maman de Samuel, Anne. Autrement dit, ce sont les pauvres et les humiliés qui ont toute la place dans le cœur de Dieu, dans la maison de Dieu. Et c'est au moment, j'allais dire, de l'humiliation la plus terrible de Anne que celle-ci va crier vers le Seigneur et qu'elle a été entendue. C'est pour ça qu'il faut relire ici le cantique d'Anne après la naissance de Samuel, qui ressemble tant au Magnificat. Ensuite, me semble-t-il, c'est à travers l'histoire des hommes, à travers des familles tout simplement bien humaines, que Dieu accomplit son projet. Le mystère de l'incarnation du Christ va jusque-là. Dieu a la patience de nos impatiences humaines, si je puis dire, c'est-à-dire il a la patience dans dans nos maturations. Et puis, cette naissance inespérée, miraculeuse, pour Jésus, c'est la naissance virginale, par la puissance de l'Esprit-Saint. Pour Samuel, c'est une naissance inespérée, due à la prière, à la constance de la prière. Et si nous cherchons plus loin, nous retrouvons dans la Bible des tas de naissances de femmes stériles. Pensons aux naissances miraculeuses d'Isaac, de Salomon, de Samuel, bien sûr, de Jean-Baptiste, de Jésus, de Samson. Oui. Rappelons-nous aussi Isaac, par exemple. Sarah était la femme préférée d'Abraham, stérile elle aussi, et sans cesse humiliée par sa rivale, plus chanceuse, qui était Agar, la mère d'Ismaël. Et Dieu avait eu pitié de Sarah. Isaac était né. Eh bien, frères et sœurs, les amis, toutes ces naissances miraculeuses sont pour nous comme des rappels vivants pour nous dire d'abord que tout enfant est un miracle, un don de Dieu. Et en cette fête de la Sainte Famille, c'est ce don de Dieu que nous accueillons et que nous vénérons. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son propre Fils, il nous a donné son propre Fils. Alors il suffit d'avoir été père ou mère une fois pour savoir que la vie ne nous appartient pas. Nous la transmettons. Mais il serait impropre de dire que nous la donnons, nous la transmettons parce que Dieu seul donne la vie. Alors, quelles que soient nos paternités, spirituelles ou charnelles, nous avons cette fierté de prêter nos corps, de prêter nos vies au projet de Dieu. Et en prêtant nos vies au projet de Dieu, nous les prêtons en ouvrant largement notre cœur et en criant auprès de Dieu, puisque crier, c'est l'étymologie même de prier, pour que nos, si je puis m'exprimer ainsi, nos propres stérilités, c'est-à-dire nos propres échecs, là où nous ne réussissons pas, là où nous pouvons vivre tel ou tel événement de notre vie comme une véritable humiliation, Dieu nous écoute, Dieu nous accueille, Dieu nous entend. Et parce qu'il nous accueille et nous entend, nous sommes à l'identique de cette naissance que nous rappelle cette première lecture de cette fête de la Sainte Famille. Alors prions, bien sûr, pour toutes les familles du monde, mais prions aussi, et peut-être plus encore, pour tous ceux et celles qui sont en recherche de paternité. Amen.